Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», votre émission de débat et d'information en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et cette semaine, nous avons décidé d'analyser la séquence extrêmement dense que nous avons vécue depuis le lendemain de l'élection présidentielle, avec cette attente autour de la désignation d'un ou d'une première ministre. Et puis, une attente aussi assez significative pour une composition de gouvernement qui a été annoncée il y a maintenant quelques jours. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de MCBG Conseil et expert en communication politique et en stratégie. La première question que j'ai envie de vous poser, Philippe, c'est est-ce que cette longue attente a débouché sur des résultats satisfaisants, et est-ce que, selon vous, le président Macron a marqué des points par rapport à la fois à la désignation d'une femme première ministre, et puis ensuite une composition du gouvernement qui était très attendue et qui aujourd'hui fait l'objet de toutes les critiques ou analyses?
Alors la séquence est réussie si on se place du point de vue des élections législatives. L'intérêt numéro un d'Emmanuel Macron, c'était d'essayer de neutraliser, comme il le fait toujours, hein, ses éventuelles oppositions. Donc il a pris Damien Abad à l'origine pour essayer de torpiller encore un peu plus LR et siphonner encore plus son électorat. Et puis il a pris Pap Ndiaye pour essayer d'exciter l'extrême droite et de rallier vers lui des voix de la gauche modérée qui pourraient être tentées par l'aventure Mélenchon. Donc il a, de ce point de vue-là, il a attendu très longtemps pour éviter que précisément il y ait une campagne législative comme il l'avait fait à la présidentielle. Donc ce qu'on constate, c'est que la non-campagne devient une méthode de campagne, ce qui est intéressant. Et de ce point de vue-là, ça va, de ce point de vue arithmétique, il devrait avoir sa majorité au Parlement. Je crois que c'est absolument tout son objectif pour l'instant. Et ensuite, sur le long terme, l'affaire Abad et tout ça, oui, ça va être un boulet pour le gouvernement. Mais il y a d'autres boulets, hein. Il y a l'affaire Darmanin, il y a l'affaire Dussopt, il y a l'affaire Colère. Enfin, je veux dire, si on commence à regarder du côté des dossiers, il y en a énormément.
Oui, on pourrait même rajouter Maître Dupond-Moretti,
qui est aussi.
Enfin, la liste, vous avez raison, on va pas faire la liste, parce que, en fait, ça va prendre tout le temps de l'émission.
C'est un problème judiciaire, oui.
Et l'idée, c'était effectivement de pas s'intéresser à tel ou tel ministre, à telle ou telle situation, mais plutôt de...
Ce qui est intéressant à noter, je vous coupe Alexis, ce qui est intéressant à noter, c'est que, au fond, il n'y a plus de jurisprudence. Avant, on avait une jurisprudence. Quand un ministre était mis en cause, on le dégageait très vite, pour des affaires beaucoup moins graves, d'ailleurs, en moyenne, que ce qui est évoqué aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, on garde les ministres en poste, on les défend à fond. Et on veut surtout se mettre à l'abri de toute déstabilisation. Alors, ça n'empêche pas un très fort turnover des ministres. Je crois qu'on a une instabilité ministérielle record depuis une dizaine d'années. Mais en revanche, on ne les fait pas partir pour ce type de raison, ou très peu.
Alors justement, ça c'est un point intéressant que vous soulevez. Qu'est-ce qui explique, alors que semble-t-il, la demande de transparence, de probité ne cesse de s'accroître, et elle est aussi quelque part nourrie par les réseaux sociaux et la mise en instantanéité de tout type d'information qui sort sur telle ou telle personnalité politique, et que, à rebours de ce qui s'était fait ces 20 dernières années, on peut dire même presque 25 avec la jurisprudence Balladur, hein, lors de la cohabitation 92-95, où effectivement, dès qu'il y avait un début de mise en cause judiciaire, le ministre était écarté, et ensuite ça a été conforté sous Lionel Jospin et sous les différents cabinets ministériels qui ont suivi. Et là, en fait, depuis 2017, vous nous dites, il y a une rupture, quoi. On est sur autre chose.
Repli sur soi de la classe politique, un repli sur elle-même de la classe politique, qui ressent l'extérieur, les réseaux sociaux, une agression, et qui donc a décidé de ne plus vraiment rendre compte. C'est pas uniquement En Marche, on pourrait taper sur Emmanuel Macron et estimer que c'est... Mais c'est pas le problème. Ouais, c'est plus large. Il y a un repli sur soi de la classe politique qui se sent remise en cause constamment, agressée constamment, et qui est incapable, au fond, de concevoir un rapport avec les gens qui soit horizontal, qui soit fait d'humilité, de modestie, d'exemplarité. Il n'y a pas vraiment n'y a plus vraiment de dialogue parce qu'on a une classe politique qui refuse d'évoluer vers des standards démocratiques nouveaux. Parce que la demande est trop radicale probablement, trop violente pour elle, parce que elle vit un peu décalée du reste du monde. C'est très frappant de voir, il est très frappant de voir à quel point les pratiques du milieu politique sont déconnectées du reste du pays, à la fois en termes financiers, de le rapport à l'argent, qui est incroyablement différent, le rapport aux mœurs, c'est très étrange. C'est comme si la classe politique s'était autonomisée, séparée du reste de la population.
Et pourtant, on avait eu le sentiment, en particulier depuis l'affaire Jérôme Cahuzac, donc ce ministre des Finances, du budget, qui est tombé en disgrâce pour fraude fiscale, on avait l'impression, avec la mise en place de cette autorité de la vie publique, toute l'opération un petit peu de transparence, et on peut pas vraiment parler, comme en Italie, d'une opération main propre, comme il y avait eu dans certains pays européens, mais enfin quand même, il y avait une tentative de rompre avec ce que vous décrivez, c'est-à-dire des conflits d'intérêts, un rapport malsain à l'argent, voire même effectivement des pratiques endogamiques, népotiques. Finalement, il y a eu ensuite l'affaire Fillon, mais quelle était la conséquence de cette mise en place de la haute autorité? Et donc, ce que vous dites, finalement, c'est que malgré bien la tentative de rompre avec une certaine culture politique, eh bien, on n'y arrive pas, en fait. Voilà, la classe politique se replie, se bloque, et on va pas dans cette direction-là.
Je pense qu'on avance par à-coup, mais que le système de la Ve République n'est pas un système qui permet d'avoir une responsabilisation de la classe politique. C'est un système qui permet, au contraire, d'échapper à ses responsabilités politiques, parce que c'est un système, au fond, où tout est concentré à un échelon, la présidence, l'Élysée, etc., quel que soit le président, quel que soit le gouvernement. Il n'a pas vraiment de compte à rendre, il n'y a pas de vraie responsabilité du président devant l'Assemblée, il n'y en a pas en réalité. Il n'y a pas de possibilité de le mettre en cause judiciairement. Donc on a créé un centre qui correspond bien aux habitudes françaises, c'est très traditionnellement français, un lieu d'impunité, de forte concentration du pouvoir, donc tradition vraiment jacobine, et sans vraiment non plus de responsabilité politique. Donc à partir de là, la grammaire peut pas être celle d'une horizontalité, d'une responsabilité. Il y a des tentatives, il y a des à-coups, parce que quand même, je pense qu'il y a une grande partie de la politique qui a envie que ça change, qui d'abord est honnête, mais pas du tout dans ses pratiques. Et puis il y a aussi une génération de gens qui arrivent aux responsabilités qui n'ont pas non plus envie de se reconnaître dans les standards de l'exploitation sexuelle, du détournement d'argent. Enfin, c'est pas forcément des valeurs dans lesquelles les nouvelles catégories de gens qui arrivent aux responsabilités, qui arrivent en politique, se reconnaissent. Au contraire, ils se construisent le plus souvent contre ça. Moi, mes étudiants à Sciences Po, c'est l'affaire Abad, ça les accable vraiment. Toutes les affaires financières aussi, ils comprennent pas ce rapport aux politiques en réalité. Donc il y a quand même un espoir qu'une nouvelle génération change ça, mais il y a un souci avec le système politique en lui-même. Tant qu'on n'établira pas l'exemplarité des politiques comme la norme, d'une façon extrêmement exigeante et avec tous les leviers du pouvoir pour imposer ça, ça ne fonctionnera pas.
Alors le grand paradoxe du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est fait élire sur une forme de rupture. Il avait parlé lui-même de république exemplaire. Et même s'il ne s'agit pas ici de pointer du doigt les responsabilités, force est de constater que l'irresponsabilité dont vous parlez et l'ambiguïté des politiques par rapport à leurs responsabilités, elle a été nourrie aussi. Et on se rappelle de l'affaire Benalla et du président de la République qui, devant ses parlementaires, disait qu'ils viennent me chercher, sachant très bien qu'il est protégé, lui, par la Constitution et qu'il ne peut pas être mis en cause judiciairement pendant son mandat. Donc c'est pas là quelque part un paradoxe d'avoir un jeune président qui se fait élire sur la modernité, sur des pratiques nouvelles, et qui quelque part n'endosse pas le costume qu'on attend de lui, l'exemplarité, et au contraire entretient une forme de régression démocratique avec effectivement le soutien à des personnalités de premier plan malgré les affaires.
Je crois qu'il y a une affirmation du côté de l'exécutif impératif d'une autonomie, là aussi, par rapport à la norme. Ça, c'est assez frappant, c'est-à-dire que quand on a eu la crise de la Covid, on a constaté qu'il y avait véritablement un régime différent. C'est-à-dire que l'exécutif a fonctionné avec un conseil qui est un conseil couvert par le secret, donc on est dans une configuration où il n'y aura pas de publicité sur les décisions qui ont été prises, pas de responsabilité juridique en particulier possible, et puis avec une absence d'exemplarité, c'est-à-dire le port du masque était complètement aléatoire pour le président. Il faisait des bains de foule en pleine épidémie, enfin bref, on avait vraiment deux régimes différents. Je crois que c'est juste en arrivant à l'Élysée, Emmanuel Macron a constaté l'étendue de ses pouvoirs et sa capacité à, s'échapper de la norme commune était extrêmement étendue. Et il en a profité, il a juste exploité des leviers qui étaient à sa disposition. Mais qu'il soit jeune ou vieux, qu'il ait pris des engagements différents pendant la campagne, c'est possible. ça joue. Mais le fait est, si vous n'avez aucun levier, aucune institution, aucun biais pour imposer aux politiques des normes, le politique s'en émancipe. C'est valable dans tous les régimes, dans tous les pays, de tous les temps. Donc, c'est notre responsabilité collective, si vous voulez, plus que celle d'Emmanuel Macron, de mettre en place un système dans lequel il n'est pas possible de procéder comme on procède. Il n'est pas possible de dire d'un collaborateur qu'on le couvre quoi qu'il arrive. Il n'est pas possible qu'un ministre accusé de viol de fonction, il n'est pas possible qu'un ministre accusé de monnayer les faveurs sexuelles en échange de services, qui est quand même incroyable quand on parle d'un des principaux responsables de l'État, demeure en fonction. Voilà, c'est à nous d'imposer un cadre collectivement, c'est impossible. Mais le problème, c'est que les Français sont eux-mêmes très ambigus dans leur rapport à la norme. Je ne dis pas, comme Chloé Morin, qu'on a les dirigeants qu'on mérite, mais d'une certaine façon, on n'est pas assez exigeant avec les politiques. On est trop coulant et on n'est pas assez exigeant, oui. On ne va pas exiger d'eux qu'ils respectent la norme, probablement parce que nous-mêmes, on a du mal à la respecter, oui. Donc c'est tout un travail qu'il faut faire sur qu'est-ce qu'on veut collectivement comme rapport aux politiques, qu'est-ce qu'on veut comme classe politique, comment nous-mêmes on peut se mettre au niveau des standards qu'on aimerait voir appliqués. Et c'est un travail collectif qu'il faut faire. C'est pour ça que je pense que c'est plus un problème de système qu'un problème de personne, même si évidemment on aimerait avoir des hommes politiques, plus spontanément, plus respectueux. Mais moi, la spontanéité dans le respect de la norme chez les politiques, je les croise tous les jours, hein, j'en ai pas vu beaucoup. Donc, je crois plus à la vertu des règles institutionnelles.
Alors, il y a les règles écrites.
Oui.
Et puis, il y a les règles non écrites. Vous avez dit effectivement que il y avait des attentes dans tous les pays, mais elles se manifestent de façon différente. On a le sentiment effectivement qu'il y a certains pays dans beaucoup de grandes démocraties. Notamment du côté de l'Allemagne ou dans les pays scandinaves, il y a 90% de choses qui sont tolérées chez nous ne le seraient pas et provoqueraient effectivement la fin d'une carrière politique ou la fin de responsabilités importantes, alors qu'effectivement chez nous on a l'impression que y a une forme de alors est-ce que c'est de la tolérance, est-ce que c'est de l'aveuglement, est-ce qu'on veut pas voir les choses, enfin comment vous expliquez cette mentalité, cette approche culturelle?
C'est très difficile à comprendre de l'extérieur. Les pays étrangers ont beaucoup de mal à comprendre notre rapport à la norme. Pour eux, effectivement, il est excessivement choquant de voir autant de ministres impliqués dans des affaires et qui restent en fonction. Il y a effectivement beaucoup de pays où ça ne serait pas possible. Je pense encore une fois que c'est notre rapport collectif à la norme, c'est le rapport des Français à la norme. Si vous regardez ce qui s'est passé pendant l'épidémie, vous aviez un rapport extrêmement ambigu alors qu'il s'agissait de protéger les plus faibles d'entre nous. Il s'agissait de quelque chose de bien collectivement, un but désirable qui était de faire en sorte que on ne contamine pas plus de gens, donc on limite notre nombre de morts, qu'on limite aussi notre coût social parce que ça a été très cher. Et on limite aussi l'épuisement des médecins. Donc ça a duré quelques mois où on était tous d'accord derrière cet objectif. Et puis au bout d'un moment, on a vu se mettre en place un peu de stratégie d'évasion. On met le masque sous le nez. On le garde sous le menton pour le mettre s'il y a un contrôleur, sinon on ne le porte pas. On va faire durer le déjeuner dans le TGV pendant 3 heures parce que c'est un bon moyen d'éviter de porter le masque. Enfin bref, on a bien vu collectivement que notre rapport à la norme, à la règle, était ambigu. Donc on peut pas attendre de nos hommes politiques, si vous voulez, à partir de là, qu'ils soient plus respectueux que nous de la norme, même s'ils devraient l'être. on est bien d'accord, ils devraient être plus exemplaires que nous, parce que justement, ils doivent être exemplaires. Mais en fait, ils nous ressemblent. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre en place un système d'obligation pour les politiques. C'est un vrai qu'ils soient exemplaires, qu'ils soient peut-être plus forts qu'ils ne l'est actuellement, et c'est un travail qu'il faut qu'on fasse tous ensemble. Il faut qu'on dise clairement, voilà, un homme politique qui ne porte pas de masque en public, alors que par ailleurs, il oblige le reste de la population à en porter, il doit démissionner. Un politique mis en cause dans une affaire de viol ne peut pas rester en fonction. Il faut qu'on écrive ça noir sur blanc, je pense. Et là, on se rendra compte de nos propres ambiguïtés, de nos propres limitations.
Alors, une dernière question, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la nomination de Pape Ndiaye et les polémiques qui ont suivi. Est-ce que ça vous iriez jusqu'à dire que finalement, ça peut être aussi une stratégie du pouvoir et du président de la République de nommer certaines personnes en sachant que ça va provoquer des réactions, mais qui vont pas être de l'ordre du débat d'idées. On va pas être sur quelle réforme des retraites, quelle réponse à l'augmentation du prix de l'énergie ou à la carence de logement, mais on va être effectivement sur le CV plutôt que sur le compétence ou les orientations, et que ça peut être aussi un moyen pour le pouvoir, en attendant les élections législatives, de détourner un petit peu le débat de ce qui devrait être le débat à quelques semaines des élections législatives.
Je pense qu'il y a un usage tout à fait délibéré du gouvernement, de la polémique et du commentaire. C'est-à-dire qu'il y a une attitude extrêmement ambiguë. C'est-à-dire qu'on va d'un côté dénoncer les commentaires en disant tout ça c'est vraiment du bruit, ça nuit à la politique, c'est affreux, c'est honteux. Et en même temps, on va nommer Pape Ndiaye, qui est diamétralement opposé à ce qu'était Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire du jour au lendemain, on remplace quelqu'un qui a l'image d'un républicain ultra proche du printemps républicain, etc., qui est Jean-Michel Blanquer, qui ne s'en cache pas, qui assume ses positions. On le remplace par Pape Ndiaye, qui est un universaliste, mais qui a des engagements pour les minorités qui sont connues, qui est noir, et donc il va provoquer chez l'extrême droite un réflexe immédiat et assez raciste.
Et pavlovien, quasi.
Ouais, quasiment pavlovien. Donc on sait, quand on fait ça, ce qu'on va provoquer. Et je pense que c'est fait pour préparer les législatives, donc c'est évidemment je sais pas si c'est stratégique, c'est tactique. Et on a aussi du côté de la droite, avant que n'éclate cette affaire, la tentation de prendre Damien Abad, parce que au fond, il va être une belle prise, il est président du groupe à l'Assemblée, il est une belle prise de guerre. Ce que j'ai du mal à comprendre dans cette séquence, c'est pourquoi on savait que Damien Abad avait une imputation exécrable en matière de, je sais pas, dans sa relation femme, tout le monde le savait, c'est une notoriété publique. Le gouvernement est déjà très faible sur ce point. C'était rajouter une faiblesse de plus. Et par ailleurs, apparemment, les plaintes à l'article de Mediapart sur les plaintes pour viol étaient connues de l'exécutif. Tout le monde en avait entendu parler. Moi-même, on me l'avait communiqué plusieurs semaines avant. Donc je ne vois pas pourquoi l'exécutif n'a pas choisi d'éviter ça. Voilà. J'ai vraiment du mal à le comprendre, parce que je ne vois pas ce qu'il a à y gagner ensemble. Quoi. Je ne vois pas ce que ça va lui apporter. Ni électoralement, ni en termes d'image. Je pense qu'il y avait des prises à droite qui auraient pu être beaucoup plus valorisables que celle-ci. Donc j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi ils l'ont fait quand même. Pourquoi ils n'ont pas pris une autre option, alors qu'ils avaient le temps et la latitude de le faire. Soit ils n'ont pas eu le choix, c'était la seule personne qui acceptait de jouer le jeu à droite, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup. Soit ils avaient anticipé le problème, et ça explique un petit peu le caractère automatique de la défense, le fait que la défense de Damien Abad vienne très vite, fait que tout se mette en place assez vite dans sa défense. C'est un vrai point d'interrogation.
Évidemment, on ne peut pas avoir la réponse à toutes ces questions, mais effectivement, il faut constater que le gouvernement était sans doute préparé à un certain nombre d'attaques, que ce soit sur l'affaire Pape Ndiaye, ou bien sur l'affaire Damien Abad, et peut-être...
Sur Pape Ndiaye, il y a évidemment, pour moi, c'était vraiment un choix tactique. Sur Damien Abad, j'avoue que je suis un peu, comme tout le monde, décontenancé, parce que je vois vraiment pas, encore une fois, et il y a beaucoup de ministres qui disent ça dans le gouvernement, alors de façon anonyme, mais qui le disent quand même, je ne vois pas ce que il y a à gagner là-dedans. Voilà.
Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet pour avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'agence MCBG Conseil, et on était ravis de vous entendre dans la première partie de l'émission. On reprend dans quelques instants. Merci Philippe, à très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», votre émission de débat et d'information en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et pour cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, également professeur associé à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste en communication politique. Et pour vous interroger sur cette émission consacrée à la désignation d'une nouvelle première ministre et également la désignation et la composition du nouveau gouvernement. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel bilan faites-vous de cette séquence qui, même sous la Ve République, a été relativement longue. Il a fallu un certain temps avant de connaître le nom de la première ministre et ensuite aussi plusieurs jours de tractation pour le gouvernement. Quel bilan faites-vous ?
Oui, c'est un processus qui indéniablement a pris beaucoup plus de temps comparativement aux reconductions de présidents précédents. On a deux cas, hein. François Mitterrand en 88, réélu, il nomme quasiment dans la foulée Michel Rocard et quelques jours plus tard, et même quelques heures plus tard, le gouvernement de Michel Rocard est désigné. Et on a aussi, on se souvient, l'exemple de Jacques Chirac, qui en 2002 est réélu, qui nomme Jean-Pierre Raffarin dans la foulée. Le gouvernement Raffarin 1 est désigné quasiment dans les 24 heures suivant la nomination de Jean-Pierre Raffarin. Là, en l'occurrence, on a une séquence qui a été beaucoup plus étirée dans le temps, surtout pour ce qui concerne la désignation de la première ministre, où manifestement Emmanuel Macron a voulu en tout cas
jouer la montre,
maturer sa décision, c'est le moins qu'on puisse dire, sachant qu'il y a quand même un événement qu'il faut, enfin une lecture qu'il faut faire, c'est que, alors certes, Elisabeth Borne faisait partie des profils pressentis, castés, comme on dit aujourd'hui, au tout début, notamment au lendemain de la réélection du président. Mais dans les derniers jours précédant la nomination d'Elisabeth Borne, c'est un secret pour personne qu'un autre profil avait été évoqué, un profil de droite, Catherine Vautrin, qui est une ancienne ministre de Jacques Chirac et de Jean-Pierre Raffarin, présidente du Grand Reims, LR, qui s'était ralliée au mois de février à Emmanuel Macron, et finalement, Emmanuel Macron a renoncé à cette hypothèse. Et il a renoncé à cette hypothèse pour une raison qui est liée au rapport de force interne à la majorité, c'est qu'une partie de sa majorité, notamment Richard Ferrand entre autres, en tout cas l'aile gauche de sa majorité, y a vu comme un très mauvais signal qui serait envoyé notamment à l'électorat de gauche qui a voté en faveur du président de la République. Et la lecture que je veux faire de cette, si vous voulez, de cette première séquence, c'est que c'est peut-être la première fois, finalement, depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République en 2017, qu'il recule dans un rapport de force interne à sa majorité. Ça veut dire que lui qui pensait avoir les mains libres, en tout cas avoir les mains totalement libres du fait de sa reconduction, se retrouve dans un système finalement de contraintes qu'il n'avait peut-être pas imaginé. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément ensuite, évidemment, le profil d'Elisabeth Borne, c'est un profil dont on sait très bien que ça sera un profil de très grande loyauté. L'idée, c'est finalement de désigner in fine une personnalité plutôt à gauche, en tout cas plutôt à gauche du fait de sa trajectoire politique, enfin de sa trajectoire, je vais dire, plutôt de grand serviteur de l'État, parce qu'elle a été membre de plusieurs cabinets ministériels chez Lionel Jospin, Jack Lang, Ségolène Royal à gauche. Même si, indéniablement, en tant que ministre d'Emmanuel Macron depuis 5 ans, elle a quand même eu à prendre des mesures qui, en tout cas aux yeux, je pense, de la gauche d'opposition, ne constituent pas des mesures de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, la volonté, en tout cas, d'Emmanuel Macron, c'est de montrer que, après avoir nommé deux premiers ministres de droite dans les quinquennats précédents, il a décidé de faire le choix d'une femme, d'abord, et d'une femme qui est plutôt positionnée à gauche, qui viendrait d'une certaine manière valider ce propos qui est le sien de considérer que ce mandat est un nouveau mandat et qu'il faut en effet montrer qu'on n'est pas seulement dans la continuité, mais qu'on est également dans le renouvellement. Mais de fait, on est quand même dans la continuité.
Alors, il y a eu depuis la désignation d'Elisabeth Borne comme première ministre, l'annonce d'un nouveau gouvernement, dont la composition reflète, et c'est ce que nous disait Philippe Moreau-Chevrolet, un savant calcul de la part d'Emmanuel Macron, et peut-être même une part de cynisme, au sens où il savait d'avance que la désignation de certains profils allait susciter certaines réactions. On pense notamment à Pape Ndiaye et aux réactions, je dirais, immédiates, pavloviennes de l'extrême droite et d'une partie de la droite. Et puis aujourd'hui, on a aussi l'affaire Abad. Peut-être que là, c'est moins maîtrisé, parce que ce qui était attendu, c'est plutôt la poursuite d'un débouchage à droite, pas forcément de nouvelles affaires. Mais en tout état de cause, Philippe Moreau-Chevrolet dit que tout ça est quand même très calculé, et c'est un gouvernement de campagne électorale pour gagner les élections législatives.
Oui, alors de ce point de vue-là, rien de nouveau sous le soleil. Les gouvernements qui sont nommés après une élection présidentielle, surtout depuis que le quinquennat existe, sont des gouvernements qui ont pour premier objectif opérationnel de permettre au président de la République de disposer par la suite d'une majorité législative à l'Assemblée nationale afin qu'il puisse mener la politique qu'il entend mener. Donc là, j'allais dire, finalement, Emmanuel Macron est dans une pratique du pouvoir que d'autres de ses prédécesseurs ont également mis en œuvre lorsqu'ils ont été reconduits président de la République. Alors ensuite, moi je crois que le premier élément recherché, le premier effet, le premier impact recherché par la constitution de ce gouvernement, il est double. Premier élément, d'abord, faciliter des interprétations venant des commentateurs pour que l'on dise que ce gouvernement est équilibré. C'est la notion d'équilibre, quand vous écoutez finalement les analystes, qui revient de manière assez systématique, équilibre bien évidemment lié à la parité, mais équilibre aussi lié entre les profils qui viendraient de la gauche et des profils qui viendraient de la droite. Donc c'est cette interprétation que l'on souhaite quand même susciter dans les commentaires pour montrer que finalement la Macronie et le macronisme n'ont rien perdu de leur capacité d'attractivité autant à droite et à gauche, et conservent d'une certaine manière les briques du récit originel. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, qui à mon sens, que veut en tout cas essayer de sursouligner Emmanuel Macron par la constitution de cette équipe gouvernementale, c'est aussi de montrer que malgré tout, il est dans le renouveau. Emmanuel Macron, depuis qu'il s'est fait réélire, n'a cessé de dire que ce mandat ne serait pas le même mandat que le mandat de 2017, que ce serait un mandat de renouveau. Souvenez-vous, lors de son investiture à l'Élysée, lors de son discours, il dit finalement « je suis un président nouveau pour un mandat nouveau et pour un peuple nouveau ». Donc, sur un certain nombre de sujets, il essaye en tout cas de faire venir des personnalités nouvelles. La personnalité, en effet, qui apparaît, j'allais dire, la plus disruptive au regard notamment de ce qu'a été le premier mandat d'Emmanuel Macron, notamment sur la question de l'éducation nationale et sur la question, entre autres, de la laïcité, c'est vraisemblablement, en effet, la recrue que personne n'attendait à ce poste, en tout cas, qui est Pape Ndiaye. On voit que Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, et quelqu'un qui aime, d'une certaine manière, toujours prendre le contre-pied, après avoir eu un ministre de l'éducation nationale qui était situé à droite et qui d'ailleurs était à droite, là aussi au regard de son parcours.
Oui, c'était relativement assumé.
Voilà, il a fait le choix d'aller chercher une personnalité venant du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, venant de la société civile, qui est plutôt à gauche et qui a une vision en tout cas a priori, mais il faudra là aussi mesurer, j'allais dire, à l'épreuve de ce que sera l'expérience Pape Ndiaye au ministère d'éducation nationale rue de Grenelle, mais en tout cas il a, disons, une vision de la question de la laïcité qui est en tout cas légèrement différente de celle de Jean-Michel Blanquer. Bon, après, moi je pense qu'il y a la volonté en effet aussi d'Emmanuel Macron de couper la route de la gauche, c'est-à-dire que il a compris que, de toute façon, l'élection législative se jouait entre le centre, qu'il représente, l'hypercentre qu'il représente, et la gauche qui a réussi, sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon, à s'unir pour essayer de porter à l'Assemblée nationale le maximum de députés de gauche. Donc, il va chercher une personnalité de gauche, ou il va chercher un certain nombre de personnalités de gauche. Il va notamment faire en sorte de faire tenir à sa première ministre, en tout cas, un certain nombre de propos qui sont autant de clins d'œil vis-à-vis de l'électorat de gauche, parce que il essaye d'une certaine manière de dévitaliser l'effet recherché par Jean-Luc Mélenchon et de couper justement cette route de la gauche en dynamique et en unité, sachant que de toute façon, la question de la droite est pour l'instant, en tout cas, dans la séquence que nous traversons, une séquence qui serait réglée à ses yeux, parce que on sait très bien que s'il y a un risque, en tout cas, de cohabitation à l'issue des élections législatives, elle ne vient pas de la droite, elle vient plutôt de la gauche. Donc c'est cette analyse que fait aussi Emmanuel Macron à travers, en tout cas, la constitution de ce gouvernement, en donnant des signaux en termes de communication, hein, je dis bien en termes de communication, plutôt à gauche. Il y a un autre aspect qu'il faudra qu'on, et j'en aurai terminé, qu'il faut bien regarder. Vous regardez bien la composition du gouvernement, les ministères régaliens, pour l'essentiel, sont tenus par des personnalités de droite, à l'exception du garde des Sceaux. Les ministères plutôt économiques par une personnalité de droite, Bruno Le Maire, et les ministères sociaux plutôt par des personnalités de gauche, je pense à Monsieur Dussopt, ministère du Travail, ou Madame Bourguignon, le ministère de la Santé, avec l'exception de Damien Abad, qui lui vient des Républicains. Et dernier point, pour un peu réactiver, si vous voulez, le logiciel progressiste dont Emmanuel Macron entend être le leader, on va chercher sur des ministères de la transmission, qui sont les ministères de l'éducation nationale ou les ministères de la culture, des personnalités qui sont issues de la diversité. Bon, après, tout cela est évidemment, une machine qui vise, encore une fois, à préparer, et en tout cas à renforcer, l'impact macroniste au moment des élections législatives.
Alors, vous avez évoqué effectivement le transfuge Damien Abad, qui devait être le symbole dans ce gouvernement, d'un responsable des Républicains de premier plan. Il était président du groupe parlementaire des Républicains à l'Assemblée nationale, et il est en train de devenir le symbole d'autre chose. On rentrera pas dans le détail des affaires qui le concernent, mais pour Philippe Moreau-Chevrollet, il est un nouveau symbole d'une forme d'irresponsabilité installée au cœur de l'État, où finalement, après avoir soutenu tous les ministres impliqués dans des affaires à des degrés divers, judiciaires, accusations diverses et variées, conflits d'intérêts, etc., la marque du quinquennat Macron, dit-il, c'est la fin de la jurisprudence pérature et le fait que coûte, on soutient ces ministres, pratiquement envers et contre tout, et quel que soit finalement le type d'accusation.
Je partage totalement ce point de vue, c'est-à-dire que ce qui caractérise en effet, parmi d'autres caractéristiques, le mandat d'Emmanuel Macron, c'est en effet la prise de distance avec une forme de moralisation de la vie politique, alors avec des rythmes différents, mais qui finalement a commencé bien avant Edouard Balladur, qui a commencé aussi avec quand même François Mitterrand, d'une certaine manière, même si on sait très bien que les septennats de François Mitterrand ont été parfois émaillés d'affaires, mais il n'en demeure pas moins que, déjà, souvenons-nous, quand Bernard Tapie est mis en examen en 91 ou 92, il est écarté du gouvernement. Donc, si vous voulez, cette prise de distance avec des personnalités politiques qui sont inquiétées par la justice, c'est une, préoccupation des dirigeants politiques qui émergent au tournant de la fin des années 80 et début des années 90, et qui, bien évidemment, avec Édouard Balladur, va s'accélérer. Là, c'est indéniable que depuis 5 ans, ce président de la République qui s'est fait élire sur la volonté de renouveler les pratiques politiques, qui s'est fait élire sur l'idée de moralisation de la vie politique. N'oublions pas que la première loi qu'il fait adopter à l'Assemblée nationale lors de son premier mandat, c'est une loi sur la moralisation politique, dont il tire les conséquences d'ailleurs très rapidement au tout début, puisque, souvenez-vous, il y a un certain nombre de ministres modèles qui vont être inquiétés par la justice,
dont François Bayrou,
et qu'on ne retrouvera pas dans le deuxième gouvernement. Mais ensuite, à l'exception de ce début, de cette entame, comme on dit en sport, on a vu un président de la République qui a pratiquement soutenu l'ensemble de ses proches, quels qu'ils soient, ministres, parfois collaborateurs, contre vents et marées. Prenez l'exemple de l'affaire Benalla, il aura fallu des jours, des semaines et des semaines pour que l'Élysée prenne ses distances avec son collaborateur. Et c'est vrai aussi pour un certain nombre de ministres. Et on est dans cette situation qui est absolument incroyable en France et qui est pourtant totalement banalisée, hein, et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs en Europe, avec un garde des Sceaux qui est mis en examen. J'insiste sur ce paradoxe extraordinaire que celui qui a la tutelle de l'ensemble de l'appareil judiciaire en France est mis en examen par l'organe dont il a la tutelle. C'est quand même une situation qui, vous en conviendrez, ne se retrouve nulle part ailleurs en Europe, certainement pas dans les démocraties du Nord, mais également non plus dans les démocraties du Sud. Et tout cela se fait avec une forme, j'allais dire, de naturel et de banalisation qui est quand même assez surprenante. Alors, ensuite, si vous voulez, pour revenir à la situation du ministre en question, monsieur Abad, du ministre de la Solidarité, on est, à mon sens là aussi, dans une expression de cette désinvolture, non pas que monsieur Abad soit coupable, il est aujourd'hui, il n'est pas présumé innocent, puisque de toute façon il n'y a même pas d'enquête à ce stade aujourd'hui. Donc il est dans une situation où finalement il n'a pas de compte à rendre autre qu'à sa conscience, éventuellement aux médias. Mais c'est vrai que, disons, il y a eu quand même une prise de risque manifeste, parce que manifestement quand même, il semblerait que l'exécutif ait été au courant des risques que faisait courir cette nomination, et que on n'en a pas tenu compte. Et en effet, le fait de ne pas en tenir compte renforce cette idée qu'on a là aussi une forme de désinvolture, une très grande liberté vis-à-vis d'un certain nombre, j'allais dire, d'usages qui se sont imposés ces dernières années, où quand même on essaye malgré tout d'éviter de prendre des profils qui peuvent ensuite poser des problèmes sur le plan médiatique. Et là, en l'occurrence, Emmanuel Macron ne l'a pas fait. C'est un choix. C'est un choix qu'il assume.
C'est une prise de risque mesurée, on va dire.
Bah, c'est une prise de risque mesurée, oui, mais c'est une prise de risque quand même qui, là aussi, pose un problème. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour un gouvernement qui est dirigé par une femme, première ministre, qui, lors de sa première déclaration, lors de la passation de pouvoir, fait de la cause des femmes une de ses priorités, lorsque le gouvernement fait, à juste titre et tout à fait légitimement, de la lutte contre les violences féminines un enjeu majeur, la nomination malgré tout de Damien Abad, au regard aujourd'hui de ce qui pèse sur lui, à tort ou à raison, moi je ne juge pas sur les faits, mais je juge sur les effets que cela peut par contre créer dans l'opinion, vient d'une certaine manière un peu contredire cet affichage politique. Donc ça c'est un vrai sujet, mais donc encore une fois, Emmanuel Macron ne semble pas à ce stade en tout cas véritablement tenir compte.
On dira, et ce sera la conclusion, que c'est une nouvelle illustration du en même temps cher au président de la République. Et je crois que ça se suffit comme explication. Parce qu'on l'a tellement vécu et tellement vu et revu que bon, on est dans la continuité de ce point de vue-là. Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. Et on a toujours plaisir à vous écouter dans vos analyses. C'était l'émission « Et si on en parlait ?». À très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.